Vous écoutez RFI, les 9h à Paris, 10h à Kiev.
RFI Matin.
Et cette heure en temps universel à la une de votre journal, Marion Kazanov, la signature de cet accord économique entre l'Ukraine et les États-Unis.
Il porte sur l'exploitation des ressources naturelles du pays en guerre, un accord historique pour le ministre américain des Finances, Scott Bessent.
L'accord signé aujourd'hui signale clairement aux dirigeants russes l'engagement de l'administration Trump en faveur d'un processus de paix axé sur une Ukraine libre, souveraine et prospère à long terme.
Et on va voir comment réagissent les Ukrainiens en début de journal. Le Pakistan craint une attaque imminente de l'Inde. New Delhi accuse Islamabad d'être responsable de l'attentat meurtrier au Cachemire indien la semaine dernière et a promis de répliquer. Des millions de manifestants à travers le monde pour défendre les droits des travailleurs en ce 1er mai. On verra qu'en France, les revendications prennent une dimension internationale. Et puis en football, soirée de record en Ligue des Champions avec ce spectaculaire match entre Barcelone et l'Inter Milan en demi-finale aller. Ils se quittent sur un nul 3 partout qui promet un match retour électrique.
Le texte aura été revu, raturé, remanié de nombreuses fois. Il vient finalement d'être signé à Washington.
Un accord entre les États-Unis et l'Ukraine qui prévoit la création d'un fonds d'investissement pour la reconstruction du pays en guerre. Il permet aux Américains d'avoir accès aux ressources naturelles ukrainiennes, gaz, pétrole, minerais, ce qui ravit Washington, on l'a entendu. On retrouve à Kiev notre correspondante Emmanuelle Chaz. Emmanuelle, que représente cet accord pour l'Ukraine ?
Alors, il doit encore être ratifié par le Parlement ukrainien, mais après des mois de tractations qui ont vraiment été houleuses, cet accord est présenté comme une bonne nouvelle pour l'Ukraine. Le Premier ministre Denis Shmyhal se félicite d'attirer des ressources pour la reconstruction et la croissance économique du pays grâce au fonds d'investissement qu'il va créer. Et il rassure en soulignant que l'Ukraine va conserver le contrôle sur ses ressources naturelles et ses infrastructures et que cet accord ne sera pas un obstacle au processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. La ministre de l'économie et vice-première ministre Yulia Sviridenko, qui a signé cet accord à Washington, précise également que l'Ukraine financera ce fonds à hauteur de 50% et exclusivement à partir de revenus qui sont générés par des nouvelles licences d'exploitation de ces ressources et que les entreprises publiques telles que Energoatom ou Ukrnafta resteront sous contrôle ukrainien. Alors, des questions persistent côté ukrainien sur les garanties de sécurité que Kiev espérait obtenir. Aucun élément concret à ce sujet n'est inclus dans cet accord qui évoque seulement un alignement stratégique des deux pays à long terme et promet un soutien américain à la sécurité, prospérité et reconstruction de l'Ukraine, mais sans préciser de quelle façon.
Emmanuelle Chaz en direct de Kiev pour RFI. L'Ukraine toujours sous les bombardements russes. 2 personnes ont été tuées, 15 autres blessées dans une frappe de drone cette nuit sur la ville d'Odessa dans le sud. Des alertes antiaériennes ont aussi retenti dans plusieurs régions, comme dans celle de Kiev, à 8 jours d'une trêve, courte trêve annoncée par Vladimir Poutine à l'occasion des 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie. Ce sera du 8 au 10 mai.
L'escalade se poursuit au Cachemire.
Un des Pakistans se toise de part et d'autre de la frontière. Situation explosive. Une semaine après l'attentat au Cachemire indien qui a fait 26 morts. Pour l'Inde, le Pakistan est responsable et pourrait répliquer. Islamabad s'attend à une attaque imminente. Dans le Cachemire, sous administration pakistanaise, la population est inquiète. Sonia Ghezali a pu s'entretenir par téléphone avec quelques habitants de cette région troublée.
Jamal vit avec sa famille à Muzaffarabad, à une quarantaine de kilomètres de la ligne de contrôle où les échanges de tirs retentissent quotidiennement depuis quelques jours.
Cette situation n'est pas nouvelle, mais elle a un impact sur notre vie et sur celle des gens qui vivent le long de la ligne de contrôle. Si ça devient trop dangereux, les gens devront partir. Leurs enfants ne peuvent déjà plus aller à l'école. Les gens ne peuvent pas sortir, ils ont des abris anti-bombes.
Arawa la côte, à 27 km de la ligne de contrôle, Nisar Shah, militant cachemiri des droits de l'homme, est très inquiet. Il craint que les tensions ne dégénèrent en conflit ouvert.
Nous ne pouvons pas nous permettre cette guerre. Nos familles vivent près de la ligne de contrôle. Nous craignons donc qu'un certain nombre de personnes ne soient obligées d'émigrer de cette région. Ils seront directement touchés par les tirs indiens et de l'autre côté, ils seront touchés par les tirs pakistanais. C'est une situation terrible.
The other side, the people will affect from Pakistani firing. It's a very terrible situation.
Les forces de sécurité ont été renforcées le long de la ligne de contrôle, indique Nisar Shah, qui craint que sa famille ne doive fuir et abandonner leur village. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI.
Et le secrétaire d'État américain Marco Rubio a réagi hier soir. Il appelle le Pakistan à condamner l'attentat au Cachemire indien et à coopérer dans l'enquête.
Sous pression, le nouveau pouvoir syrien tente de contenir une nouvelle flambée de violence.
Et déploie des forces de sécurité dans un quartier druze près de Damas. 22 personnes ont été tuées dans des affrontements entre cette minorité et des groupes armés liés aux autorités sunnites. Israël s'en est mêlé en menant hier des frappes aériennes. L'État hébreu dit défendre les druzes, lui qui en abrite une importante communauté sur son territoire. Et cette intervention israélienne pourrait encore aggraver la situation pour ces Syriens rencontrés par Mohamed Erami.
À Jaramana, banlieue druze de Damas, la tension est extrême. Depuis l'assassinat de 13 personnes après la diffusion d'un enregistrement jugé blasphématoire, des barrages ont été dressés à l'entrée du quartier qui a été entièrement bouclé, notamment sur le pont qui le sépare de Douala, un quartier limitrophe à majorité sunnite. Rami, habitant proche de cette frontière, aide à filtrer les voitures.
Nous ne sommes ni militaires ni policiers, mais ma maison est juste là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Que je reste enfermé chez moi? Je préfère être dehors et aider. On ne peut protéger personne, mais on est là pour aider les gens et réguler la circulation.
Dans les rues, presque tout est fermé. Abou Samer, coiffeur, ouvre brièvement sa boutique. Pour lui, cette vidéo, publiée sur les réseaux sociaux, est inacceptable.
C'est injuste que tout le monde paie les conséquences pour la faute d'un seul. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être protégé par Israël ? Israël est le plus grand pays contre l'islam et contre tout.
Khaled, quant à lui, chauffeur de taxi à Dola, qui a ses habitudes dans le quartier de Ruz, n'a pas pu rejoindre sa clientèle et craint pour l'avenir.
Moi, je prends mes clients tous les jours à Jaramana, mais maintenant, j'ai peur qu'Israël vienne ici. Sincèrement, si ça se produit, je vais perdre mon travail définitivement.
Devant le pont, des hommes armés, d'autres non, un drapeau syrien fait face au drapeau druze. Entre eux, 300 mètres de distance, la ligne de front ici n'est plus symbolique, elle est visible et elle inquiète. Mohamed Erami, Damas, RFI.
Et ces affrontements ont réveillé le spectre des massacres qui ont fait plus de 1700 morts il y a quelques semaines au sein d'une autre minorité, la minorité alaouite. Et plusieurs réactions sur ces violences confessionnelles. Le grand moufti de Syrie, grande autorité religieuse, met en garde contre la discorde religieuse. L'ONU partage son inquiétude et le voisin turc demande à Israël de cesser ses frappes.
Israël qui déploie l'armée en renfort pour contenir de violents incendies.
Des feux de forêt qui gagnent du terrain, les flammes sont visibles tout au bord des routes et sont aux portes de Jérusalem. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a averti que des quartiers en périphérie pourraient être bientôt touchés. L'autoroute entre Jérusalem et Tel Aviv a été fermée. 5 communes ont été évacuées déjà. Quelques blessés légers sont à signaler. Plusieurs pays ont envoyé de l'aide comme la France, l'Italie, la Croatie ou encore l'Espagne.
RFI 7h08 à Bamako au Mali. Le Conseil des ministres acte la dissolution des partis politiques.
Cette dissolution faisait partie des recommandations formulées lors des consultations dites des forces vives de la nation. Les partis partisans de la démocratie regardent avec terreur se dessiner le retour à la dictature militaire qu'a connu le pays jusqu'en 1990, date de la chute du général Moussa Traoré. Abdoulaye Traoré est lui-même président du parti RJS, Rassemblement pour la Justice Sociale, vice-président de la coalition Jigiya Kura, Espérance Nouvelle. En exil hors du Mali, Abdoulaye Traoré s'insurge, mais dit ne pas être surpris.
On s'y attendait parce qu'on voyait venir cette manœuvre de la junte qui consiste à instrumentaliser l'administration publique, les chefs coutumiers et traditionnels, pour se maintenir au pouvoir. D'ailleurs, ces concertations, les partis politiques n'ont pas pris part parce qu'on savait déjà de quoi il s'agit. Donc vraiment, c'est un recul démocratique qui sape la République. La démocratie malienne a été écrite par les sang vraiment de nos concitoyens. C'est des gens qui sont tombés en 1991 pour que notre pays soit doté vraiment de la démocratie, du multipartisme. Donc, 30 ans après, ce serait inconcevable qu'on mette ces acquis républicains et démocratiques de côté. Tous les démocrates, on va se battre pour barrer la route vraiment à la junte de s'installer illégalement en foulant au pied notre constitution, notre loi fondamentale.
Abdoulaye Traoré, président du parti RJS, Rassemblement pour la Justice Sociale, propos recueillis par David Bachet.
Les pancartes et les slogans sont prêts. Des millions de personnes manifestent aujourd'hui pour les droits des travailleurs et des travailleuses.
Comme tous les 1er mai, et en France, près de 270 cortèges sont prévus. Les slogans devraient porter sur la contestée réforme des retraites, sur les coupes prévues par le gouvernement dans le budget 2026. Mais la mobilisation aura aussi une dimension internationale. Et c'est est le sujet de notre dossier du jour. Bonjour Anne Verdaguer.
Bonjour.
Des syndicats de différents pays marcheront avec leurs confrères français et avec dans les esprits le bouleversement de l'ordre économique mondial.
Oui, avec la mise en place des droits de douane par les États-Unis, mais aussi les droits des travailleurs qui reculent un peu partout dans le monde. L'intersyndicale formée par la CGT, FSU et Solidaires dénonce la trumpisation du monde et l'internationale réactionnaire à laquelle ils veulent opposer une internationale des travailleurs. Nick Allen, représentant du SIES aux États-Unis, défilera ce jeudi à Paris et dénonce le démantèlement des services publics aux États-Unis ainsi que le ciblage des travailleurs migrants.
Il y a des rafles, il y a des déportations qui se font au milieu de la nuit, sans procédure. Parfois, c'est nos adhérents qui sont déportés pour rien du tout. Et on est dans un mode de résistance maintenant. Donc là, on est déjà en train de mettre des plaintes dans les tribunaux. Mais on ne va pas juste se fier à ça. Il va falloir ensuite se mobiliser dans la rue, en grand nombre et en coalition avec d'autres éléments de la société civile. Ça ne peut pas que être les travailleurs syndiqués. Et ça va être des mobilisations pacifiques, une coalition multiraciale, et partout dans le pays. Et je pense que le soutien international aussi, ça va être crucial.
Et de leur côté, Anne, les syndicats européens réclament un moratoire sur les licenciements.
Oui, chaque jour amène son lot d'annonces, notamment dans l'industrie. Ce fut le cas la semaine dernière chez le sidérurgiste ArcelorMittal, qui a annoncé la suppression de plus de 600 postes. Une grande manifestation aura d'ailleurs lieu aujourd'hui à Dunkerque. Les syndicats qui estiment que les travailleurs ne doivent pas être sacrifiés sur l'autel de la guerre commerciale. Esther Lynch, secrétaire de la Confédération générale des syndicats.
La pire conséquence, c'est l'incertitude. Car déjà, certaines entreprises décident de ne plus investir en Europe et c'est une erreur, car nous avons besoin d'investissement dans le tissu industriel européen. Mais attention, pas de chèque en blanc pour les entreprises qui reçoivent des aides publiques. Elles doivent avoir l'obligation de protéger les emplois et l'Europe doit de nouveau créer des emplois de qualité dans chaque région et dans chaque secteur.
Voilà, et à noter Marion que les syndicats défileront en ordre dispersé en raison d'un mot d'ordre que certains jugent trop politisé. La CFDT notamment se retrouve ce matin pour une table ronde à Paris.
Le dossier du jour signé Anne Verdaguer du service économie de RFI. Et le mot d'ordre le 1er mai en France, c'est aussi de s'offrir un brin de muguet. C'est une tradition. On n'en a pas pour vous accueillir malheureusement Antoine Grenier, mais ça ne vous empêchera pas, j'en suis sûre, de nous parler de ce superbe match hier soir en Ligue des Champions, n'est-ce pas ? Demi-finale aller entre Barcelone et l'Inter Milan. Score final 3 partout, Antoine, et on s'en souviendra longtemps.
Des surprises, des retournements de situation. Et Marion, on était à la limite du blockbuster une soirée record d'emblée, Marcus Thuram signant le but le plus rapide de l'histoire des demi-finales de C1. 30 secondes, une inspiration géniale avec une magère, une talonnade derrière le pied d'appui pour l'ouverture du score. L'Inter devant des Catalans assommés est surpris à nouveau 20 minutes plus tard sur un retourné acrobatique de Denzel Dumfries, le néerlandais. 2-0 pour des Italiens sur la pelouse du Barça. Inespéré, inattendu, mais seulement provisoire. La faute à un gamin de 17 ans et 291 jours. On les compte parce que cela fait de Lamine Yamal le plus jeune joueur à marquer en demi-finale de Ligue des Champions devant un certain Kylian Mbappé. Yamal qui dribble deux joueurs et en laisse quatre autres impuissants sur la réduction de l'écart. L'Espagnol dans tous les bons coups et qui a tenu son équipe revenue à deux partout, puis menée 3-2 à l'heure de jeu. Sur le troisième but barcelonais, Yamal s'efface pour permettre à Rafinha de placer son ballon dans le but de l'Inter, bien aidé par le gardien Yann Sommer sur ce coup-là. Yamal qui disputait son 100e match avec Barcelone n'est pas reparti avec le trophée d'homme du match. Mieux, il est reparti avec les compliments de l'entraîneur adverse. Je n'ai jamais vu un tel talent auparavant, concédait simplement Simone Inzaghi, et on a rarement vu une demi-finale retour de Ligue des Champions afficher d'aussi belles promesses.
Merci Antoine Grenier. Un Inter-Barcelone qui se disputera mardi soir à San Siro pour le match retour, donc le dénouement final. L'autre demi opposera le lendemain, le mercredi, le PSG à Arsenal. Les Parisiens ont déjà pris une option pour la finale avec leur victoire mardi 1-0 contre les Gunners à Londres. Ils seront donc cette fois à domicile. Et puis j'ajoute qu'en Ligue Europa, c'est aussi les demi-finales aller en Ligue Europa. Donc deux matchs aujourd'hui, Athletic Bilbao, Manchester United et Tottenham Bodø/Glimt. Bodø/Glimt, un club norvégien. Le coup d'envoi de ces deux matchs, c'est à 19h temps universel. Et j'ajoute, avant de se quitter, Andréane, que la doyenne du monde, la nonne brésilienne Ina Canabaro Lucas, est décédée hier à l'âge de 116 ans et 326 jours. C'est ce qu'a annoncé la congrégation des sœurs thérésiennes au sein de laquelle elle vivait. C'était dans la ville de Porto Alegre. La nouvelle doyenne, Andréane, est désormais une Anglaise. Elle s'appelle Ethan Kateram et elle a 115 ans et 252 jours.
Merci beaucoup Marion Cazanov pour toutes ces informations. Votre journal bien sûr à retrouver sur notre application RFI Pure Radio. J'ajoute que le prochain journal des sports, on parlait de foot à l'instant, le prochain journal des sports aura lieu dans une demi-heure. Antoine Grenier reviendra nous en parler. D'ici là, on essaiera peut-être de lui trouver un petit peu de muguet, je ne sais pas si c'est possible. L'information africaine également dans 20 minutes. À suivre, on va continuer de parler du 1er mai, cette journée internationale des droits des travailleurs et des travailleuses. Et nous serons au Japon avec notre correspondant Bruno Duval. D'abord, la revue de presse. Frédéric Couteau à la une, l'Ukraine accepte de partager ses richesses minières avec les États-Unis.
Oui, après des semaines de négociations difficiles, l'accord sur les minerais a donc été finalement signé hier entre les États-Unis et l'Ukraine. Un accord qui donne aux États-Unis l'accès prioritaire aux ressources minières ukrainiennes et notamment aux terres rares utilisées dans la haute technologie et qui prévoit la création d'un fonds de reconstruction et d'investissement destiné à leur exploitation. Alors la question qui vient immédiatement est de savoir si cet accord va peser sur un règlement du conflit entre l'Ukraine et la Russie.
Pour l'instant, on est dans le flou.
Oui, le Washington Post croit savoir que la dernière version de l'accord ne fournit pas de garantie de sécurité concrète à l'Ukraine, mais elle indique que Kiev et Washington sont d'accord pour affirmer un alignement stratégique à long terme entre les deux pays et le soutien des États-Unis à la sécurité, à la prospérité, à la reconstruction et à l'intégration de l'Ukraine dans les cadres économiques mondiaux. Ce langage à lui seul marque une victoire pour Kiev, affirme le Washington Post, qui cherchait un soutien actif de la part des États-Unis depuis que les relations entre les deux pays étaient devenues difficiles sous la présidence Trump. Au travers de cet accord commercial, poursuit le journal, l'Ukraine va chercher à obtenir des garanties de sécurité beaucoup plus tangibles dans le cadre d'un futur accord de paix.
Reste que pour l'instant, pointe le New York Times, la portée de cet accord commercial sur l'avenir du soutien militaire américain à l'Ukraine n'est pas claire.
Oui, une source proche des négociations affirme que l'accord final ne comprend pas de garanties explicites quant à une assistance future des États-Unis en matière de sécurité. Une autre source, poursuit le New York Times, déclare que les États-Unis ont rejeté cette idée au début du processus. Malgré cette annonce en fanfare, ce partenariat sera caduc, affirme encore le quotidien américain, si les combats entre l'Ukraine et la Russie se poursuivent. En fait, précise La Repubblica à Rome, une partie des recettes, chiffrées à 50% dans le projet, devrait être affectée à un fonds conjoint américano-ukrainien pour financer des livraisons supplémentaires d'aide militaire, une formule qui prolonge dans le futur l'engagement militaire américain aux côtés de l'Ukraine. Il ne s'agit donc pas, à proprement parler, pointe le quotidien italien, d'une garantie militaire de protection, mais cet accord commercial créerait un lien économique fort entre les deux pays et offrirait à Kiev des ressources pour financer la reconstruction et renforcer sa défense. D'ailleurs, remarque encore La Repubblica, lors de la signature hier, les Ukrainiens ont explicitement parlé d'une nouvelle assistance, par exemple, dans les systèmes antiaériens.
Et pour le Figaro, à Paris, l'Ukraine obtient ainsi un partenariat économique qui intéresse directement Washington à sa sécurité.
Oui, le Figaro qui cite cette remarque du secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, cet accord signale clairement à la Russie que l'administration Trump est engagée dans un processus de paix centré sur une Ukraine libre, souveraine et prospère à long terme. Le Figaro qui apporte aussi cette précision importante, les terres rares dont l'Ukraine détiendrait environ 5% des ressources mondiales sont des ressources qu'on voit et entre donc dans le cadre de cet accord signé entre Washington et Kiev. Mais une partie des gisements de terres rares sont situés dans l'est du pays, notamment dans le Donbass, région occupée par la Russie.
Au travers de cet accord, donc, Trump augmente massivement la pression sur Vladimir Poutine, estime Die Welt à Berlin.
Les dirigeants russes retardent depuis des semaines toute discussion sérieuse sur la paix. Moscou continue de rejeter la demande des États-Unis et de Kiev d'un cessez-le-feu inconditionnel. Plus récemment, relève encore Die Welt, Vladimir Poutine n'a proposé qu'un cessez-le-feu unilatéral de 3 jours, du 8 au 10 mai. Et ces derniers jours, Trump avait clairement exprimé que sa patience envers Moscou avait des limites. On attend donc maintenant la réaction de Vladimir Poutine après la signature de cet accord sur les minerais entre Washington et Kiev.
Et on y revient sur notre site internet RFI.fr. C'était la une en ce moment. Merci Frédéric Couteau pour la revue de presse internationale. Et les combats sont donc toujours très intenses en Ukraine, en dépit de l'annonce unilatérale par Vladimir Vladimir Poutine d'une courte trêve entre le 8 et le 10 mai, Moscou accusé même par Kiev d'intensifier ses attaques, et la Russie accélère et approfondit même sa politique de russification tous azimuts des territoires dont elle s'est emparée par la force des armes, puis qu'elle a annexé en 2022. Reportage ce matin d'Anissa El-Jabri dans la partie de la région de Kherson sous administration installée par la Russie.
20h, 2h avant le couvre-feu, c'est le dernier bulletin d'information du soir de Radio Tavria, mis en service en 2023.
Je vais commencer par les derniers chiffres du ministère russe de la Défense. Au cours de la journée écoulée, les formations armées ukrainiennes ont perdu dans la direction de Kherson plus de 90 militants. Des unités du groupement de troupes Dniepr ont vaincu les effectifs et détruit l'équipement d'une brigade d'assaut, de deux brigades de défense côtière et d'une brigade de défense.
Le contenu n'a rien à envier à ce qu'on peut entendre dans les médias fédéraux légitimistes russes. Radio Tavria est la seule à diffuser officiellement dans cette partie de territoire annexée par la Russie. Et à Genichensk, là où Moscou a installé le siège de son administration, il est quasi impossible d'avoir accès à d'autres sources d'informations. Internet passe très mal, il y a parfois un peu de Wi-Fi, mais il est local. Les VPN ne marchent quasi pas. Aux entrées et sorties de la ville, des barrages militaires. Dans les rues, des patrouilles. Et une population locale qui tient ses conversations dans les magasins à voix basse, presque en murmurant. Pour renforcer encore son emprise, la Russie mise sur l'avenir, intensifie ses efforts financiers et humains en direction de la jeunesse.
Regardez, nous avons même mis des tables de ping-pong ici pour jouer au tennis de table. Nous avons aussi des espaces dédiés à l'entraînement pour l'aviron.
Zoya Anatolievna Yassintseva est la directrice de l'école numéro 3 de la ville qui présente des bâtiments neufs et une classe d'adolescents réunis sous la houlette de membres d'un des nombreux mouvements de jeunesse encouragés par l'administration locale.
Je m'appelle Yakutcheva Yana, je suis la responsable régionale du mouvement public pan-russe des volontaires pour la victoire dans la région de Kherson. J'ai 20 ans. J'ai étudié à la faculté de médecine Genichesk.
L'activité du jour, écrire aux combattants de l'armée russe.
Vous commencez par les mots « bonjour chers soldats » ou « bonjour chers vétérans ». Après cela, vous pouvez écrire des mots de soutien, des mots de gratitude.
Chanson patriotique vantant la Russie martiale sur des images montrant la capitale russe, des défilés militaires. Dans une autre classe, aux enfants de 9-10 ans aussi, une institutrice fait répéter la leçon du Kremlin.
Le premier point aujourd'hui que nous avons est que nous avons foi en la vérité. Seule la vérité est nécessaire et vous devez y croire.
Dans l'entrée de l'école, des affiches invitant à rejoindre les écoles militaires de Russie. L'administration locale revendique de vouloir formater une nouvelle génération loyale au pouvoir russe. Anissa El-Jabri, Genichensk, RFI.
Et à noter, pour mieux comprendre les coulisses de ce reportage, que l'entrée dans ce territoire sous loi martiale se fait pour la presse via une accréditation spéciale. Les interviews dont vous avez entendu des extraits dans ce reportage ont donc toutes été réalisées en présence d'un membre du service de presse de l'administration installée par la Russie.
RFI Matin.
Nous sommes le 1er mai, journée internationale des droits des travailleurs et des travailleuses. Et à cette occasion, nous partons au Japon ce matin où l'on travaille beaucoup, beaucoup trop d'ailleurs, pensent certains Japonais. Bonjour Bruno Duval.
Bonjour.
Vous êtes l'un de nos correspondants à Tokyo. Alors il faut savoir, Bruno, et vous nous le rappelez, que les Japonais ne prennent en moyenne que 10 jours de congé par an. Pas plus, mais les temps changent et un nombre grandissant de salariés, des jeunes principalement, veulent remettre en cause ce fondement de la société japonaise.
Voilà, près d'un employé sur deux déclare en faire le moins possible au travail. Opter pour le service minimum, en somme. Ces salariés n'ont aucun plan de carrière, ne briguent pas la moindre promotion et ne prennent jamais d'initiative. Ils ne s'intéressent d'ailleurs pas aux tâches qui leur sont assignées. Seuls 6% des salariés se disent passionnés par leur emploi. Aux yeux des autres, faire acte de présence au bureau suffit. La priorité est ailleurs, à la vie de famille, aux loisirs, etc. Ce que comprennent parfaitement ces employés Tokyo 8.
Ne pas sacrifier sa vie pour son boulot, veiller à garder un peu de temps pour soi et ses proches, moi franchement ça ne m'a jamais paru infamant.
Monter en grade, c'est forcément s'exposer, devoir faire des arbitrages et gérer des conflits. Tout cela n'est pas mon fort. Rester à mon petit niveau me convient mieux. Davantage de responsabilités, c'est à la fois moins de temps pour soi et plus de stress. Non merci.
Avec mon salaire de misère, je ne vois vraiment pas pourquoi je m'investirais plus dans mon travail.
Alors ce désintérêt grandissant pour le travail inquiète bien sûr le gouvernement japonais car le pays se distingue déjà par une productivité nettement moins élevée que dans d'autres grands pays industrialisés. Bruno, que tentent de faire les autorités ?
D'abord, elles insistent auprès des employeurs pour qu'ils haussent les salaires, qui sont très bas ici, ce qui contribue à la démotivation générale, on l'a entendu. Pour vous donner une idée, le salaire minimum horaire n'est que de 1055 yens, soit 6,50 € contre plus de 10 € en France. Ensuite, le gouvernement tente de rendre la culture d'entreprise plus attrayante en l'humanisant. Par exemple, il compte interdire aux employeurs de faire travailler leur personnel pendant plus de 14 jours consécutifs, alors que depuis des lustres, ils ont le droit de le priver de congé pendant 48 jours d'affilée. Au passage, ça explique pourquoi chaque année, des dizaines de salariés japonais meurent à cause de leur travail. Soit ils sont victimes d'un AVC ou d'un infarctus fatal survenant au bureau tellement ils sont épuisés, soit ils mettent fin à leur jour, ne supportant plus d'y être maltraités, victimes de harcèlement professionnel par exemple. D'ailleurs, selon des experts, beaucoup de jeunes font le choix de ne pas s'investir dans leur emploi parce qu'ils ont vu leur père et leur grand-père souffrir au travail. Ils ont la hantise de vivre cela à leur tour, donc font tout pour se protéger.
Bruno Duval, à Tokyo.
RFI Matin.
Et notre question d'environnement consacrée aujourd'hui au lien qui existe entre crise climatique et violence sexiste. Les chercheurs de l'initiative Spotlight des Nations Unies rapportent que le changement climatique intensifie certaines tensions sociales et économiques qui alimentent la hausse des violences faites aux femmes. Juliette Pietraszewski, d'ici la fin du siècle, 40 millions de femmes et de filles supplémentaires risquent d'être victimes de violences conjugales. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre le lien entre le dérèglement climatique et les violences?
Alors d'abord, on sait que les événements climatiques extrêmes peuvent mener à plusieurs choses. Une instabilité économique, des infrastructures endommagées, une insécurité alimentaire, une pénurie d'eau, une rupture des liens sociaux et une aggravation des conflits. Ensuite, toutes ces conséquences issues des événements climatiques se produisent dans des sociétés déjà touchées par des inégalités. Résultat, eh bien, ces impacts renforcent les violences faites aux femmes et aux filles. Par le passé, une étude, Andréane, a par exemple révélé que les féminicides ont augmenté de 28% pendant les vagues de chaleur. Après des déplacements liés à des catastrophes naturelles ou à des phénomènes plus longs comme la désertification, les chercheurs ont aussi constaté une augmentation de l'exploitation des êtres humains et des abus sexuels.
Et donc, qui sont les femmes les plus vulnérables à ces violences exacerbées par la crise climatique ?
Eh bien, selon l'ONU, celles touchées par la pauvreté, les femmes autochtones, handicapées, âgées ou appartenant à la communauté LGBT+, sont également touchées. Le rapport de l'ONU mentionne aussi une augmentation des menaces contre les femmes activistes qui défendent les droits humains environnementaux. Erin Kenny est coordinatrice mondiale de l'initiative Spotlight des Nations Unies pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles.
Ce sont des femmes qui se retrouvent en première ligne des conséquences du changement climatique et ce sont également les plus grandes défenseurs des terres touchées. Et quand vous êtes en première ligne pour toutes sortes d'actions sociales réclamant la justice, y compris les actions de défense du climat, eh bien vous vous mettez automatiquement en position de faire face à une réaction négative et ça inclut les violences sexistes.
Alors ça c'est pour le constat, Juliette. Quelles sont les solutions pour contrer ces violences qui augmentent avec le dérèglement du climat ?
Alors les préconisations de l'ONU, c'est notamment d'encourager des politiques inclusives à tous les niveaux, sachant que seulement 0,04% de l'aide au développement liée au climat est principalement axée sur l'égalité des genres. Le Vanuatu, par exemple, est un archipel très exposé au dérèglement climatique. En mars 2023, deux cyclones de catégorie 4 se sont produits en moins de 3 jours. L'initiative Spotlight a travaillé avec le ministère du changement climatique et mis au point un plan d'attaque. Le but, c'est veiller à ce que les interventions en cas de catastrophe prennent en compte des services de lutte contre les violences de genre, grâce notamment à des cliniques mobiles dans les zones sinistrées.
Merci Juliette Pietraszewski, c'était notre question d'environnement sur RFI. Vous restez avec nous dans un petit peu plus d'une minute. L'information africaine sur notre antenne. Ensuite, ce sera le journal des sports avec Antoine Grenier et puis notre dossier Afrique Économie. Et puis notre reportage Afrique du jour nous emmène en Afrique du Sud, à Johannesburg, où la principale bibliothèque vient de rouvrir ses portes dans la ville. La fermeture qui ne devait durer que quelques mois a finalement duré 5 ans. Nous serons sur place dans les prochaines minutes. Restez avec nous.
tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amard.
Des affiches illustrées du 19e siècle au spot télé signé de grands réalisateurs. L'art a envahi la pub. De nombreux artistes ont mis leur talent au service des publicitaires. On en parlera à l'occasion de l'exposition « L'art est dans la rue » au musée d'Orsay.
Sur le Pont des Arts,
avec la compagnie Corsair,
du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI. Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
À l'occasion de la grande foire du livre de Abu Dhabi, je vous propose un grand reportage sur place pour découvrir les liens entre les Émirats et la France, mais aussi le prestigieux prix littéraire Cher Zayed, qui justement vient de couronner l'écrivaine franco-libanaise Oda Barakat.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.